Bem, como é nosso hábito, vamos cantar aquela novíssima canção, né? Muito recente, chamada Grande Vila Morena. Grandola Vila Morena, era lá pra terminar. O poder é mais a reina dentro de tua cidade, dentro de tua cidade. Em cada esquina um amigo, em cada próxima grande lareira, terra da fraternidade, assombrando a cidade, reina
des milliers de cœurs viennent de battre un peu plus fort, des cœurs portugais viennent de battre un peu plus fort en écoutant cette chanson, cet hymne qui fut un poème de José Alfonso qui vient de chanter cette chanson qui a été la chanson qui a déclenché la révolution des œillets au Portugal le 25 avril, il y a exactement 30 ans, le 25 avril 1974. C'est lorsque cette chanson est passée à la radio que la révolution des œillets a commencé. Après 48 ans de dictature, c'était le signal qu'avait choisi le mouvement des forces armées, MFA, le mystérieux mouvement, pour s'emparer des points stratégiques du pays. La révolution des œillets venait de commencer. Cette semaine, le magazine Courrier International fait un numéro spécial, très intéressant, avec des dessins formidables d'Antonio, et fait un jeu de loi, hein, suite à partir de ce jour en question, ce qui s'est passé ensuite et l'histoire un peu du Portugal à travers un jeu de loi. Mais toujours est-il que ce jour, ce 25 avril 1974, a été un jour fabuleux dans l'histoire du Portugal et dans l'histoire de l'humanité tout court, carrément. Une occasion de commencer par un hommage aux au Portugal, aux Portugais, à cette culture formidable. Et là, on est, vous entendez évidemment le tramway de Lisbonne. C'était, je crois, en 1992. On était en reportage au Portugal, à Lisbonne. Vous avouez que j'ai un faible pour le fado. Je sais bien que il n'y avait pas, en tout cas à l'époque, un lien très étroit entre le fado et la révolution des œillets. Le fado s'étant un peu compromis avec les années de dictature, avec le salazarisme. Depuis, les choses ont évolué, le fado est redevenu ce qu'il a toujours été, un art populaire portugais extraordinairement beau, génial, moi qui me touche tout particulièrement. Alors, en hommage à cette culture, à ce peuple, à cette révolution des œillets, on va revenir donc à ce soir de 1992, 12 ans, on était dans une petite boîte. Je me souviens pas de l'endroit, enfin de l'adresse, mais je saurais y retourner, je crois. Hein. Il suffirait de reprendre un de ces tramways et on retrouverait peut-être cet endroit où chantait une femme, une petite femme en noir, et elle était écoutée, mais dans un silence absolument religieux. Je me souviens toute ma vie de cette petite femme noire ce soir-là à Lisbonne, Portugal.
Oh, basta que eu chore por mim. Um só alguém que loucura, basta que eu chore por mim.
Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas si j'y suis, vendredi, répondeur.
Flight number 2, arriving from New York.
Merci Daniel pour ces deux émissions sur le trou de la sécu, c'était comme d'habitude très très instructif. En plus, ce qui était plaisant, c'était, comme a dit une auditrice, lumineux. Cette façon de prendre du recul et d'analyser les choses beaucoup plus objectivement, sans passer par les pansements sur jambes de bois comme les hommes politiques sont les spécialistes. Et tout d'un coup, une idée aussi lumineuse m'est apparue. Je me suis dit, puisqu'on considère maintenant acquis le fait que les pollueurs sont les payeurs en ce qui concerne les entreprises, pourquoi ces consortiums pharmaceutiques, ces laboratoires pharmaceutiques qui font des bénéfices colossaux, ne participeraient pas au comblement de ce trou de la sécu? Tu crois que c'est naïf ou pas?
Je viens d'écouter l'émission et je suis visiteur médical depuis une quinzaine d'années sur la région parisienne. Et ben les laboratoires, ils ont une technique tout simple en fin de compte pour faire passer leurs produits. D'abord, notre produit, c'est le plus beau, c'est le plus fantastique, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais ni d'effets secondaires ni d'interactions médicamenteuses. C'est totalement prohibé. Ensuite, régulièrement, deux à trois fois par an, on a des stages de formation. Formation non pas sur les produits, mais de communication. C'est-à-dire qu'on nous apprend à ne pas répondre aux questions des médecins. De toute façon, les médecins ne posent quasiment jamais de questions. Hein. Ils savent à peu près ce qu'il en est, c'est-à-dire qu'on vient pour leur vendre un produit. Et en fin de compte, ils ne posent pas de questions. De toute façon, s'ils posaient des questions, on serait peut-être incapable d'y répondre. Et puis, ce que je voulais dire aussi, c'est que la visite médicale est très ciblée, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir n'importe quel médecin. Par l'intermédiaire des pharmacies et des grossistes, on sait quasiment les prescriptions des médecins. Alors on nous fait du ciblage, c'est-à-dire qu'on nous dit d'aller voir telle ou telle personne qui prescrit dans telle ou telle pathologie, plus ou moins. Qui fait qu'on peut avoir des évolutions au niveau des médicaments qui sont fabuleuses, de l'ordre de 30 à 40% quand on cible bien. Allez, salut.
Alors c'est de la faute à qui se trouve de la sécu? Eh bien c'est les questions, c'est la question qu'on s'est posée pendant deux jours avec Martine Bullard et Philippe Pignard, et c'est peu de dire que ça vous a interpellé quelque part. Ces deux heures que nous avons passées hier, j'ai demandé si par hasard il se trouvait pas au bout du transistor des auditeurs qui par exemple seraient, disons, visiteurs médicaux qui pourraient nous éclairer, et voilà, toc, il y en a déjà un et il y en a d'autres, visiteurs médicaux qui nous disent un petit peu comment ça marche. Alors, l'un des arguments de Philippe Pignard, l'auteur de « Comment sauver vraiment la sécu et si les usagers s'en mêlaient », qui est un spécialiste très éclairé de l'industrie pharmaceutique, c'était de dire le trou de la sécu, oui, bon, d'accord, c'est les consommateurs de soins, bof, mais c'est surtout quand même les fournisseurs de soins qui ont comme agent de responsabilité dans ce trou, par rapport à ce trou. Alors, c'est très intéressant vos messages. D'abord, il y en a beaucoup, ils sont très compétents en principe, très très attentifs et très pertinents. Et alors, ce qui est intéressant, ce qui nous a amusé, si on peut dire, c'est que c'est de la faute à l'autre. Alors, le visiteur médical dit c'est de la faute du médecin, le médecin dit c'est de la faute du patient, le patient dit c'est de la faute du pharmacien, le pharmacien dit c'est de la faute de l'emballage, l'emballage, je sais pas ce qu'il dit l'emballage. Enfin, vous allez voir, voilà, les messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, comment boucher ce trou?
Salut, c'est Hervé dans le Tarn. Je viens d'écouter ton émission, Daniel, sur les médicaments. Et ça m'a bien fait rigoler parce que moi, j'ai un bon copain à moi qui est visiteur médical dans un grand, grand labo étranger et qui s'en fout plein les fous. Il gagne super bien sa vie parce qu'il est complètement fourvoyé, il s'est complètement dévoyé. On lui donne beaucoup d'argent pour vendre des médicaments aux médecins. Il a un très bon salaire. Il a des avantages que jamais aucun salarié n'aura. Il a des primes tout au long de l'année. Ça, c'est complètement délirant. J'ai jamais vu ça. Il a une voiture de fonction. Il a une mutuelle comme jamais la plupart des salariés n'auront. Et voilà. Et il gagne énormément d'argent. Il fait beaucoup de cadeaux aux médecins, même si les médecins vous disent qu'ils n'ont pas de cadeaux de la part des visiteurs. Et ben, c'est pas vrai. Donc voilà. Je crois que s'il y avait un peu moins de visiteurs, on aurait peut-être des médicaments moins chers et il y aurait peut-être un petit peu moins d'argent qui partirait faire le trou de la sécurité sociale. Voilà. Ciao.
Oui, bonjour Tatiana, je suis visiteuse médicale. Je viens d'entendre aujourd'hui, jeudi, cette émission concernant les abus de l'industrie pharmaceutique. Je voudrais témoigner en apportant les éléments supplémentaires suivants. Premièrement, je trouve que dans cette émission, dont je félicite Daniel Mermet, on a véritablement tenté d'innocenter les médecins. Daniel Mermet, vous devez être vous-même victime de pression, mais de pression sérieuse, vous. Les médecins ne sont pas victimes. Les médecins réclament et ils vous accueillent dans leur cabinet en vous disant « Écoutez, tout ce que vous vous apprêtez à me décrire ne m'intéresse pas. Je connais. Par contre, qu'est-ce qui pourrait me motiver pour prescrire plus votre molécule que celle du concurrent ?» Eh bien, pour seule réponse, le visiteur médical a ordre, je dis bien ordre, de brandir au-dessus de sa tête un chèque. Un chèque qui est toujours supérieur à celui du concurrent, afin que monsieur le docteur, si souvent respecté, qui porte la blouse blanche, puisse faire son choix. Et je vous laisse deviner quel est le choix à ces enchères qu'il fait.
Voilà, ça balance hein, sur le répondeur de la base. J'y suis, donc on a vu, c'est de la faute du visiteur médical, c'est de la faute du médecin, et là, on va voir à travers d'autres messages, d'autres, d'autres coupables.
Ouais, bonsoir Mermet. Je viens d'écouter ton émission sur le médicament. Alors bon, c'est un petit peu orienté, ça, c'est normal, t'as un point de vue et tu le défends. Simplement, t'as l'habitude de laisser traîner tes micros. Alors, moi, ma petite femme, elle est médecin. Et on lui tape tout le temps sur la tête parce qu'elle prescrit mal, parce qu'elle prescrit trop, parce qu'elle fait pas bien son métier. Mais taper sur les médecins, c'est 140 000 électeurs. Taper sur les patients, c'est toujours vachement mal vu. Et moi, je suis patient et j'écoute ce qu'elle me dit de tous les patients qu'elle rencontre. Et je pense qu'il y a un énorme effort à faire. Parce que aujourd'hui, si tu vas faire traîner tes micros auprès de ces médecins-là, eh ben ils vont te raconter ces gens qui viennent lundi en disant « Ouais, je suis malade, faut me soigner. » Alors tu leur donnes un truc en leur disant « Madame, monsieur, il faut 4-5 jours. » Et puis mardi, ils appellent en te disant qu'ils veulent à nouveau un rendez-vous. Parce que ça n'a pas fait effet. Et puis mercredi, ils te rappellent en disant qu'ils veulent encore un rendez-vous parce que ça n'a toujours pas fait effet. Et quand tu essaies de les raisonner, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir un autre médecin et ils se font rembourser. Et puis toi, ils viennent plus te voir. Alors ben, tout ça, ça fait un micmac qui est vachement compliqué parce que quand tu demandes aux gens d'être un petit peu citoyens vis-à-vis de la médecine et vis-à-vis de la façon dont ils se soignent, eh ben il n'y a plus personne. Et dire ça à 60 millions de personnes qui votent, c'est vachement impopulaire. Alors que taper sur la gueule de 140 000 médecins, c'est vachement plus facile. Voilà.
Oui, salut Daniel. C'est par rapport à l'émission que tu fais très intéressante. Une question que je me suis toujours posée concernant les médicaments et dont on n'a jamais parlé. Le coût des emballages. Le coût des emballages, ayant travaillé dans l'édition, ça revient, je pense, très très cher. Est-ce qu'on a une idée, est-ce que les personnes que tu invites pourraient parler de ça, et est-ce que c'est quelque chose qui... Parce que jamais on ne parle de ça, mais les emballages en carton pour chaque boîte de médicaments, c'est, je pense que ça représente une somme extrêmement importante. Et est-ce qu'il n'y aurait pas déjà comme moyen, comme on fait dans certains pays, de délivrer les médicaments dans des ou une pochette papier ou du plastique? Mais ces emballages en carton, souvent en couleur, à mon avis, j'aimerais bien savoir quel est le prix dans les médicaments et la somme que ça représente dans le déficit de la Sécu. Salut, c'était Christian. Au revoir.
Thank you. Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Avec une charmante demoiselle, je devais me marier par amour. Mais un soir, comme j'étais près d'elle, en train de lui faire la cour, me voyant troublée, elle me dit, qu'avez-vous? Moi j'y répondis, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas, et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démangent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôle, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme, j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout, j'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareils, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain, en plus de ça, je vous le cache pas, j'ai aussi, quel souci. L'aluette trop fluette, l'œsophage qui surnage, les gencives qui dérivent, j'ai le palais qui est palais, mais les dents c'est navrant, j'ai les petites qui s'irritent et les grosses qui se déchaussent, les canines se ratatinent, les molaires se font la terre, dans les yeux c'est pas mieux, j'ai le droit qui est pas droit et le gauche qui est bien moche, j'ai les cils qui se défilent, les sourcils qui s'épilent, j'ai le menton qui est trop long, les artères trop épaires, j'ai le nez tout bouché, le trou du cou qui se découe et du coup, voyez-vous, je suis gêné pour parler, c'est vexant car maintenant je suis forcé de m'arrêter. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas important.
Et voilà, ça rapporte beaucoup d'argent, hein, cette chanson d'Ouvrard. Nous sommes mal portants et ça fait beaucoup, beaucoup de sous, mais ça creuse le trou de la sécu. C'était le sujet de nos émissions d'hier et d'avant-hier. Vous avez été très, très nombreux à réagir avec la suite de ces entretiens avec Martine Bullard et Philippe Pignat. D'autres réactions donc sur le répondeur de la basse si j'y suis, 0156 40 37 37.
Salut, Daniel Mermet. Eh bien, Martial de Montlouis-sur-Loire, dans cette belle Touraine. Et ça tombe magnifiquement bien qu'aujourd'hui vous parliez des médicaments, parce que justement, moi je travaille en pharmacie. Et alors je vais quand même faire un petit peu mon petit dénonciateur, à savoir quand même une chose, c'est que on voit quotidiennement, je suis représentant, hein, je vois donc pas mal de pharmacies dans la journée, et on voit quotidiennement, dans toutes les pharmacies, des gens ramener des sacs entiers de médicaments non utilisés, et bien souvent même des cartons qui font en moyenne 50 sur 50, voire même plus de taille. Et ça va dans un gros carton derrière, à l'arrière des pharmacies, cartons qui sont marqués Cyclamed. Et ce sont des cartons qui font à peu près 1m10, 1m20 de hauteur sur 50, enfin sur 60 même, d'accord? Et ces cartons-là, eh bien, il faut à peine une semaine pour qu'ils soient remplis. Et il y a 25 000 pharmacies en France. Alors, il faut savoir que les médecins, et il faut pas hésiter à le dire, sont parfaitement complices de cet état de fait. Et vous avez des médecins qui, pour garder leur clientèle, eh bien, se passent tous les mois systématiquement chez leurs personnes âgées, qui sont leur fonds de commerce, et qui renouvellent en permanence, en permanence, en permanence, en permanence. on n'en a même pas besoin, et dont ils n'arrivent même pas d'ailleurs à consommer, parce qu'ils en ont tellement que... Alors ça dort dans des placards, et ben quand ces papis et mamies finissent par décéder, et bien les enfants qui vont débarrasser la maison se retrouvent avec une montagne de médocs à balancer et à ramener chez les pharmaciens qui, ben, malheureusement, sont transformés, eux, et ça les emmerde, il faut dire ce qui est. Ils sont transformés, effectivement, en récupérateurs de médicaments.
Ce qu'il faut savoir également au sujet des médicaments, c'est que les médecins avaient un accord avec l'État. Ils devaient prescrire un maximum de médicaments génériques. En contrepartie, l'État prenait à sa charge la moitié des charges sociales de ces médecins. Or, ces accords n'ont pas, une fois de plus, été respectés par les médecins, parce que pour la plupart, de toute façon, ils sont contre les gouvernements de gauche à l'époque. Et on voit encore beaucoup de personnes qui refusent effectivement les médicaments génériques parce que leur médecin leur a dit que le médicament générique n'avait rien à voir avec celui qui prescrivait eux-mêmes. Tout simplement parce que ces 10 médecins touchent malgré tout de la part des laboratoires. Enfin, c'est évidemment mafia habituelle. Voilà, salut!
Alors, deux réflexions. La première sur l'aurore pharmaceutique, terme qui a été employé par toi-même. Donc, ça me rappelle un bouquin qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait L'aurore économique. Un livre dans lequel, malheureusement, il n'y a pas un argument sur comment remédier aux effets pervers du marché. Deuxième réflexion, qu'a-t-on trouvé de mieux aujourd'hui ? Enfin, aujourd'hui, j'ai d'ailleurs dans le passé, pour faire chercher les gens, les faire découvrir des choses et mettre les choses à disposition du public, évidemment moyennant finances. Je crois avoir la réponse, ça s'appelle le marché. Système très motivant pour inciter les gens à gagner de l'argent, tout en améliorant accessoirement la santé publique. Voilà, à bientôt, merci, je continue à écouter.
Voilà, 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 ne dites pas que les néolibéraux n'ont pas la parole dans cette émission. Voilà un acte de foi dans le libéralisme, dans le marché, qui est le seul moyen, la seule solution. There is no alternative, comme disait notre Margaret Thatcher, c'est la solution. Il faut que, voilà, c'est l'appât du gain, finalement, qui nous fait courir et rien d'autre. Il semble pas que vous soyez tous d'accord sur cette conviction, en tous les cas, si on en croit le répondeur de la base, si j'y suis. On va revenir à ce répondeur, mais là, on voudrait se mettre un petit peu à l'heure portugaise. On a une occasion formidable d'évoquer et puis de rendre hommage à nos amis portugais. C'est vrai que les Portugais en Europe sont des modestes. Hein. C'est les modestes, c'est les gens qui sont dans leur coin avec cette fameuse ces clichés qui peut-être les écrase, la tristesse, la saudade. Il y a quelque chose de doux et d'un peu complexé, d'introverti chez nos amis portugais, qui est particulièrement touchant. Enfin, en tous les cas, moi qui me touche tout spécialement. Et là, on retourne à Lisbonne. Donc, c'était en 1992, et c'était dans une rue marchande du centre de Lisbonne. Il y avait une petite dame assise dans un coin, aveugle, avec sa canne blanche. Et qui jouait du triangle, vous entendez le triangle, et qui chantait ça.
Eu fui ao pico, piquei-me. Ai, sim, piquei-me lá no Silvador. Eu fui ao pico, piquei-me. Ai, sim, piquei-me lá no Silvador. Nunca mais eu vou ao pico. Ai, se eu pisei o pico cermado, nunca mais eu vou ao pico. Ai, se eu pisei o pico cermado.
I simply came to gain a lot of people.
Les marchands de Yèvre vont faire fortune ce week-end au Portugal et partout où il y a des Portugais, c'est-à-dire beaucoup en France pour ce 30e anniversaire de la révolution des œillets. C'est quand même une drôle de révolution qui a commencé avec une chanson, qui a commencé d'ailleurs cette émission en hommage, et puis qui a été le déclenchement, cette chanson a été le déclenchement d'un soulèvement militaire, mais de gauche, voire même d'extrême gauche, qui a renversé la dictature et qui s'est symbolisée par ses œillets. Et il y a toute une histoire ensuite, évidemment, c'est comme dans certains moments de la vie, il y a des beaux jours qui sont suivis de beaucoup de lendemains. Nous, c'est les lendemains c'est nos lendemains à nous, de nos deux émissions sur l'horreur pharmaceutique, enfin, pas tout à fait, puisqu'il s'agissait du trou de la sécu, et c'est vrai que je fais un rapprochement peut-être un peu hâtif, mais enfin, qui n'est pas très loin de celui que fait Philippe Pignard concernant les causes du déficit de la sécurité sociale. Je dis sécurité sociale, oui, on m'a fait observer qu'il fallait pas confondre sécurité sociale et assurance maladie, et que le glissement de l'un à l'autre de ces termes raconte assez bien ce qu'est devenu cette conquête formidable qu'a été, qui est la sécurité sociale. Alors, parmi ceux qui sont exprimés sur le répondeur de la basse, j'y suis, il manquait les pharmaciens. Et ben voilà, les pharmaciens.
Je suis pharmacien d'officine et en tant que tel, j'ai tendance à considérer que les gens qui rentrent dans mon entreprise sont des clients et je dois donc satisfaire mes clients. Mon client, c'est évidemment le malade, mais c'est aussi la sécurité sociale d'une certaine façon. Par conséquent, imitant en cela ce qu'avait fait le directeur de Carrefour il y a une vingtaine d'années, j'ai considéré que les génériques devaient être promus de la même façon que on avait promu des lessives qui s'appelaient des produits libres, c'est-à-dire qu'on devait en quelque sorte d'abord satisfaire son client sur le plan financier, et ben puis si on le satisfaisait de la même façon que si on le satisfaisait comme on satisfait quelqu'un qui achète un produit. Mais les laboratoires faisaient de la véritable désinformation vis-à-vis des médecins en leur disant des choses fausses pour éviter que les génériques s'installent. Et bien sûr, cela expliquait que nous, pharmaciens d'officine, quand nous arrivions, quand une ordonnance arrivait avec du Zyloric et nous disions à la personne, vous savez, je vais vous donner la loprinol parce que c'est exactement la même chose, puis ça va vous coûter moins cher, et ça va coûter moins cher à la sécurité sociale. Il disait, oui, mais vous comprenez, le médecin m'a dit, il faut faire attention parce que c'est pas les mêmes produits, parce qu'ils sont moins bons, etc. Je trouve ça monstrueux, c'est comme si, je sais pas, enfin, c'est vraiment contraire aux règles élémentaires de commerce. Alors c'est là où moi je m'insure, c'est que je dis quand un produit est dans le domaine public, ben ma foi, on a le droit de le fabriquer, de l'utiliser, et je ne vois pas pourquoi ce produit serait différent de l'autre qui est la marque. Et si les laboratoires avaient voulu conserver, ma foi, leur privilège avec ce produit, eh bien ils auraient baissé leur prix, ils auraient fait tout ce qu'il fallait pour suivre les règles élémentaires du commerce. Voilà.
Bonjour Daniel, c'est Stéphanie, j'appelle de la Haute-Garonne. En fait, je suis très étonnée suite à votre émission sur les économies de la sécurité sociale que vous ne parliez jamais des pharmaciens d'officine, ceux que l'on trouve un peu partout dans nos villes et dans nos campagnes. Moi, je suis pharmacien assistant, donc je suis salarié. Et je voulais vous signaler que nous avons, nous connaissons les dénominations communes internationales des médicaments, c'est-à-dire le nom des molécules, et que nous avons le droit de substitution depuis quelque temps, c'est-à-dire que si un médecin prescrit un médicament princeps, on peut le substituer par son générique si le générique existe pour ce médicament de référence. Donc il n'y a pas que les médecins qui font partie de... qui joue un rôle dans l'économie de la santé, Il y a aussi les pharmaciens et on n'en parle jamais. Et leur rôle n'est pas reconnu. Pourtant, nous faisons aussi un bac plus 6. Donc, nous avons un niveau d'études assez élevé. Et nous ne sommes pas trop reconnus dans la société, ce que je regrette. Et nous ne sommes pas que des tiroirs caisses ou des épiciers. Parce que moi, je suis salariée, donc je suis même pas payée à l'acte. Je suis là juste pour aider les gens dans la délivrance des médicaments ou dans les conseils qu'on peut apporter. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Merci pour vos émissions. Au revoir.
Je viens d'entendre la deuxième émission donc sur le médicament. Je suis totalement effarée parce que j'ai entendu au niveau des chiffres des gens qui sont malades et qui meurent à cause des médicaments. C'est vrai que il y a beaucoup trop de problèmes, de contre-indications, d'effets secondaires, d'effets indésirables au niveau des produits. Et quand un malade veut changer ou veut s'insurger contre ça et propose à son médecin de changer de traitement, le médecin accepte difficilement justement cette reconnaissance. J'ai travaillé au centre antipoison il y a longtemps à Paris et lorsque la toxicité du bismuth qui provoquait entre autres des encéphalopathies, lorsque la toxicité a été reconnue, il a fallu attendre très 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 longtemps avant que ce produit soit mis hors circuit. On se demande où on est quoi. Alors quand je pense à Jean-François Mattei qui par rapport au déremboursement, à l'explosion de la sécurité sociale, qui d'ailleurs on est en plein dedans, hein, l'explosion de la sécurité sociale dont parlaient vos invités. Le déremboursement, c'est une chose, et quand on pense que l'homéopathie et les médecines douces sont complètement absentes du débat, et je n'ai pas entendu l'émission d'hier, mais totalement absente du débat de ce soir, c'est beaucoup moins cher, c'est efficace, il n'y a pas d'effet secondaire. Bien sûr, il faut enlever les charlatans du circuit, mais sinon, il y a beaucoup de maladies, même très graves, qui peuvent être, sinon guéries, de toute façon bloquées, encadrées par l'homéopathie et les médecines douces. De toute façon, la puissance des holdings ne peut rien contre les politiques ne peuvent rien contre la puissance des holdings, et c'est pour ça qu'il y a des aberrations dans le système. Et puis, moi, je me dis que c'est aussi au malade à se prendre en charge, à être responsable de lui-même, et puis je me dis que ce serait peut-être bien que l'assurance maladie change de nom, parce que ça risque pas de s'améliorer en s'appelant comme ça, ce serait bien que ça s'appelle assurance santé, et je pense qu'on avancerait dans une autre dynamique, un autre esprit. À très bientôt et merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, des points de vue différents, variés, en tous les cas compétents sur ce sujet. Là, vous avez compris, le déficit de la Sécu, qui est en effet bien plus le résultat d'une offre de soins toute puissante, dont l'industrie pharmaceutique est le meilleur exemple, que d'un dérèglement des patients qui n'a jamais été sérieusement démontré. C'était au moins l'argument qu'a développé Philippe Pignard dans ses émissions. Bon, il y a pas que ça dans la vie, hein. Il y a d'autres modèles, d'autres nouvelles sur le front, d'autres nouvelles du front sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Preuve.
Oui, salut l'équipe de là-bas, si j'y suis. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, les agents des FGDF étaient dans l'action pour défendre le statut de l'entreprise publique, pour qu'elle reste une entreprise publique, propriété de la nation et pas propriété de quelques-uns pour se faire un petit peu plus de pognon. Et il y a eu quelques actions médiatiques montées et menées, dont vous avez certainement entendu parler, comme la coupure de l'éclairage public de certaines villes, des choses comme ça. Il faut aussi savoir que dans le même temps, il y a des actions peut-être moins médiatisées qui ont été menées, entre autres par exemple à Lyon. Trois foyers en difficulté financière qui avaient été coupés pour impayés ont vu les agents grévistes leur remettre le courant. Et c'est pas simplement une action pour dire on a fait ça aujourd'hui, mais demain on leur recoupe le jus. En même temps qu'on a remis le courant, on a pris contact au niveau de des assistantes sociales, etc., pour que ça continue et qu'on leur recoupe pas le courant demain. Donc les vraies actions sont menées pour que le personnel qui a remis le jus n'ait pas fait pour rien. Allez, ciao.
Allô, bonjour, c'est Yves, j'appelle d'Ardèche. J'écoute avec intérêt vos émissions sur la santé. Il y a aussi un autre sujet sur lequel nous intervenons, nous nous battons actuellement, c'est par rapport à la Poste. La Poste actuellement ferme tous ses bureaux, les transfère aux charges de communes ou fait des points postes. Alors nous avons mené une campagne pour défendre notre bureau de poste à Saint-Pierre-Ville, donc en Ardèche, ainsi que le bureau d'à côté d'Albon qui a fermé. Et nous avons créé un site internet, journaldecampagne.org, www avant. Donc, nous avons mené une action depuis à peu près 3 mois. En rétorsion, la Poste a fermé le bureau le jour des manifestations. La logique, là aussi, c'est de tout transférer soit aux charges de communes et transférer ce qui est rentable au privé. Merci et à bientôt.
Salut Daniel, c'est Thierry à Vienne. On est devant le palais de justice de Vienne où les trois premiers protagonistes du prochain CGM en France vont être jugés aujourd'hui. Donc on est là pour les soutenir toute la journée. Allez, ciao, bientôt.
Jérôme d'Attaque-Loire-et-Cher. Pour rester dans la ligne de l'émission d'aujourd'hui sur la Sécu, la Confédération Paysanne, le GABLEC, groupe de producteurs biologiques, et des organisations de consommateurs se regroupent ce samedi 24 avril à 14h à la salle polyvalente de Montpré-Chambord dans le Loir-et-Cher dans le cadre d'une rencontre débat sur les OGM avant que ceci ne devienne un problème de santé publique. Au revoir.
Fica bem pão e vinho sobre a mesa. E se à porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, um cheirinho alecrim, um cacho de uvas doiradas, duas rosas num jardim, um São José de azulejos, mais um sol da primavera, uma promessa de beijo, dois braços à minha espera. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. No conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho. A cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Basta um pouco, sim, para alegrar uma existência singela. Um amor, pão e vinho, um caldo verde, verdinho a fumegar na tigela.
Voilà, couleur Portugal aujourd'hui, couleur œillet pour le 30e anniversaire de la Révolution des œillets. Un dernier message aujourd'hui sur le répondeur de la basse où j'y suis, l'arc-en-ciel, eh oui. Vous vous souvenez, cet auditeur de Guadeloupe qui nous a laissé un message parce que à la Guadeloupe, on l'entend là-bas, j'y suis à 11h du matin, et il était étonné, cet auditeur, parce que autour du soleil, au-dessus de lui, eh ben, il y avait un halo lumineux, un arc-en-ciel, et alors en forme d'un, vous voyez, qui décompose la lumière comme ça. Il était très intrigué, demandait, etc. Et moi, je suis absolument évidemment incompétent, puis l'équipe aussi, mais heureusement il y a des auditeurs, ou plutôt des auditrices, très compétentes en matière de soleil et de halo et d'arc-en-ciel.
Je vous appelle au sujet du phénomène lumineux observé par votre auditeur guadeloupéen. Il ne s'agit ni de pollution, ni d'effet de serre. C'est simplement un phénomène physique assez courant, dû aux cristaux de glace atmosphériques qui décomposent la lumière du soleil comme des prismes, comme les gouttes d'eau quand il y a un arc-en-ciel. Ça s'appelle un halo. Il y en a des petits, il y en a des grands, ça dépend de l'orientation des cristaux de glace, et on peut en voir assez souvent lorsqu'il y a des cirrostratus qui forment comme un voile fin et transparent assez haut dans le ciel. On peut en voir autour du soleil, on peut en voir aussi la nuit autour de la pleine lune. On voit tout ça dans nos régions si les conditions atmosphériques sont propices et si on sait regarder. Et on peut les photographier parce que c'est bien réel. Alors l'histoire de Bouddha, c'est un autre phénomène. Si vous êtes en montagne ou en avion ou en parapente, vous pouvez voir des cercles colorés autour de votre ombre. C'est le spectre du Broken, appelé aussi gloire. Là, vous avez le soleil dans le dos, vous voyez en contrebas votre ombre ou celle de l'avion, entourée d'une petite auréole. Et en Asie, c'est effectivement symbole de bonheur. Bouddha est souvent représenté comme ça. Alors Daniel, la prochaine fois que vous prenez l'avion, placez-vous à l'opposé du soleil. Surtout ne fermez pas le hublot. Et regardez bien, si vous vous voyez tout petit, entouré d'une auréole, c'est que les dieux sont avec vous. Au revoir.
Chérie Coco, comme il y a longtemps que j'ai dansé, ce soir on va en boîte. Moi j'ai envie de zouker, j'ai envie de danser. Guillaume Bleu a envie de zouker, j'ai envie de danser. En sortant, la go était habillée, dans un kino plaqué, avec un body rempli de monde au balcon. Arrivé en boîte, balancé un zou, son morceau préféré, vous-même vous adorez ce morceau. On dit comment témoin, tu m'aimes, comment témoin, je t'aime. C'est ce zouk là ils ont mis, j'ai envie de zouker,
j'ai envie de zouker, j'ai envie de zouker.
J'ai envie de danser, j'ai envie de zouker. Zézé Ricardo a envie de danser, j'ai envie de zouker. Valérie Claire, la beauté divine, c'est pour toi ça. Yéba. En dansant, il chante dans l'oreille des sagots. Il dit comment témoin, tu m'aimes. Très fort la go, elle n'arrivait plus à respirer. Tellement coincée, la go a fait du vent. Je vous l'ai dit qu'elle a pété un vent violent, très chaud, qui est sorti du sous-sol et qui sentait très mauvais. Je disais au début, la go était habillée dans un kine plaqué, avec un body rempli de monde au balcon. Le vent est descendu, en bas là c'est plaqué. Le vent est remonté, en haut y'a body. Comme elle avait une forte poitrine, au milieu là y'a tout. C'est là qu'il a mis son nez, son visage bozouké. Quand il a aspiré l'odeur, sa voix a changé. Il dit comment témoin, tu m'aimes. Je ne suis rien. Peux-tu me dire quel parfum tu as mis aujourd'hui? La go lui répond, mon chéri Coco, c'est un nouveau parfum qu'on appelle les trois chats. Il dit à sa go, regarde entre tes chats là, y a deux qui sont morts, qui sont en train de pourrir. Arrêtons de zouker, j'ai envie de zouker.
J'ai envie de zouker, j'ai envie de zouker, j'ai envie de zouker.
à distance. Azuke moi salazuke, azuke moi salazuke, azuke moi salazuke. Moi j'ai envie de zouker, azuke moi salazuke. Moi j'ai envie de zouker, ça tue.
La Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade,
o povo é quem mais ordena.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade,
Grândola Vila Morena.
Voilà, couleur Portugal aujourd'hui pour le 30e anniversaire de la Révolution des œillets. Merci à tous et à toutes. Le numéro du répondeur, vous le savez, mais je vous le répète tout de même, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Christophe Imbert qui s'en occupe. Patrick Henry, Benjamin de la Gâtinette aux manettes aujourd'hui, musique Yann Chouquet, réalisation Coy Nguyen, le mail de la Basse-J Suisse et daniel.mermet@radiofrance.com réclame.